OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Ce soir, on va regarder la discipline d'étudier les Saintes Écritures. Alors, vous avez remarqué au cours des dernières semaines, on a vraiment regardé l'ensemble des choses qu'on peut faire avec les Saintes Écritures, soit les écouter, les étudier, les mémoriser, les méditer. J'ai peut-être oublié une. En tout cas, ce soir, on va regarder la discipline d'étudier les Saintes Écritures. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas foule qui étudie les Écritures de façon très sérieuse. Alors que la Bible nous demande de le faire, je pense qu'il y a comme un manquement. La plupart des gens se disent, c'est le travail du pasteur, mais c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne que chacun doit prendre sa responsabilité d'étudier les Écritures. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une décision qu'il faut prendre et il y a un temps qu'il faut accorder dans notre quotidien. S'accorder un temps, ça peut être 15 minutes par jour, ça peut être une demi-heure, dépendamment du temps qu'on a, dépendamment de la situation dans laquelle on est. Mais c'est très certainement quelque chose qui fortifie très fortement les chrétiens d'étudier les Saintes Écritures. Alors, on va regarder les différents aspects de ça ce soir. Bien sûr, on va regarder ça de façon assez sommaire. On pourrait dire beaucoup de choses sur ça, d'étudier les Saintes Écritures. Alors, on va regarder cinq choses par rapport à cette discipline d'étudier les Saintes Écritures. On va regarder pourquoi le faire, premièrement. Deuxièmement, en quoi ça consiste d'étudier les Saintes Écritures. Troisièmement, quand le faire. Quatrièmement, comment le faire. Et cinquièmement, comment interpréter les Écritures. Bien entendu, ça aussi, il y a une multitude de livres qui ont été écrits, qui s'appellent l'herméneutique, qui donnent les règles pour bien interpréter les Écritures. S'il y a quelque chose, quand on étudie les Écritures, il faut tenir compte, c'est vraiment l'herméneutique, de tenir compte des règles. Il y a des règles à garder, sinon on s'en va dans toutes les directions pour on fait dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas du tout. Alors, il faut regarder, on va regarder ces cinq points-là. Alors, l'étude habituelle, diligente et sérieuse de la Bible est beaucoup négligée pour les raisons suivantes. Et vous allez voir que le docteur R.C. Sproul, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, R.C. Sproul, c'est un réformé américain très connu avec des émissions de télévision. Lui, il dit la paresse, que c'est la principale raison pour laquelle on n'étudie pas les Écritures d'aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Et là, je le cite, je l'ai traduit, c'est en anglais, mais je l'ai traduit en français. Il dit, voici le réel problème concernant notre négligence. Nous sommes manquants dans notre devoir d'étudier la parole, non parce qu'elle est difficile à comprendre, ni parce qu'elle est ennuyante, mais parce qu'elle nécessite du travail. Notre problème n'est pas un manque d'intelligence ou de passion. Notre problème est que nous sommes paresseux. Pas très intéressant à se faire dire, hein? Pourtant, je pense qu'il met le doigt droit sur le bobo, là. Il met le doigt droit sur le bobo. Alors, il dit ça dans Knowing Scripture, que je vous ai donné les références pour ceux qui sont intéressés à aller vérifier. Il y a aussi une autre raison, ce qu'on pourrait appeler la tendance à la dépendance passive. La dépendance passive, c'est autrement dit, on s'assoit, on se dit, c'est la job de celui qui en avait de faire ça, moi, tout ce que je fais, je viens m'assurer, puis j'écoute. C'est déjà bien. Si tu le fais, toutes les cultes qui existent dans un an, si déjà tu as fait ça, tu as fait un bon pas. Mais il faut aller plus loin que ça. Alors, on a tendance à se fier sur les autres. Mais ça, c'est un trait humain qui se manifeste pas juste dans la question des Écritures, qui se manifeste en général. On a tendance à se fier sur les autres. La troisième chose, c'est l'ignorance concernant quant à la manière concrète de le faire. Là, on peut dire, ouais, mais tu dis les Écritures, comment qu'on fait ça? Alors, on va regarder un petit peu sommairement, très sommairement, ce soir, un petit peu, je sais pas si ça va être ce soir ou la semaine prochaine, mais en tout cas, peut-être la leçon va être assez longue pour qu'on la fasse en deux deux leçons. L'auteur chrétien bien connu qui s'appelle Jerry Bridges, sûrement qu'il y en a qui ont déjà lu quelque chose de lui, plusieurs livres écrits en anglais qui ont été traduits en français, lui il résume la différence entre la simple lecture de la Bible et son étude. Il dit « La lecture nous apporte de la largeur, tandis que l'étude nous apporte de la profondeur. » C'est vraiment le cas de dire, quand on lit, on peut lire toute la Bible d'un couvert à l'autre, on l'a lu, on a lu son contenu, on a lu les histoires, on a lu tout ça. Mais l'étudier, c'est d'aller en profondeur, de comprendre plus. Parce que pour l'étudier, ça implique plein de choses que la lecture ne nous donnera pas. Il y a des choses dans les Écritures que si on ne les étudie pas, on ne les apprend pas. C'est aussi simple que ça. Alors, l'apôtre Paul est un exemple. Il a vu le ciel, on nous dit dans 2 Corinthiens 12, les 6 premiers versets de 2 Corinthiens 12, il nous dit qu'il a vu le ciel. Il a vu le Christ ressuscité. Il a aussi expérimenté la puissance du Saint-Esprit par des miracles et pour l'assistance dans la rédaction de la Bible. Donc, lui, il a écrit plusieurs livres, je pense qu'il est 12 ou 13, dépendamment si on attribue hébreu à Paul ou non. Il a écrit 13 livres des Écritures du Nouveau Testament. Alors, il était, bien entendu, le Saint-Esprit. Alors, il a connu beaucoup de choses concernant Dieu, plus que la majorité d'entre nous, plus que je dirais que la totalité d'entre nous, et même que je dirais que la totalité de la plupart des chrétiens qui n'ont pas connu les expériences que Paul a connues. Pourtant, Paul, qui était cet homme d'un très niveau spirituel, sentait encore le besoin d'étudier les Écritures. On se dit, il était sûrement un docteur, il était sûrement une personne très calée dans les Écritures, énormément calée même, je dirais, mais quelque part, il continuait de sentir le besoin de continuer à les étudier. Par exemple, dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 13, il dit, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, principalement les parchemins. » Donc, à quelque part, à cette époque-là, quand la Bible, c'était pas d'un livre comme aujourd'hui, c'était des rouleaux. Alors, ils avaient laissé quelque part et demandaient à quelqu'un qui revenait vers lui de les amener. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps à les étudier. Alors, si Paul, aussi privilégié dans sa marche spirituelle comme chrétien, si proche du Seigneur que lui qui a vu des choses extraordinaires, sentait le besoin d'étudier les Écritures, combien plus nous en avons le besoin. Alors, Paul demande deux choses à Timothée. Son manteau, pour garder son corps au chaud, et la parole de Dieu pour l'étudier et pour réchauffer son cœur. Dans une brochure très utile sur la parole de Dieu intitulée « Reading the Bible », autrement dit « Lire la Bible », le pasteur gallois Jeffrey Thomas écrit les remarques suivantes sur la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai, là. Il dit « Ne vous attendez pas à maîtriser la Bible en un jour, ou en un mois, ou même en un an, mais attendez-vous plutôt à être intrigué souvent par son contenu. De grands hommes de Dieu se sentaient parfois comme des novices devant sa richesse. De plus, les Écritures elles-mêmes nous affirment que certaines de ses parties sont difficiles à comprendre. On lit par exemple dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 16, « Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, leur propre perdition. » Donc, les Écritures elles-mêmes nous disent qu'il y a des parties des Écritures ou des doctrines des Écritures qui sont difficiles à comprendre et qui demandent d'études. Si tu les étudies pas, tu ne comprendras pas. Pas plus compliqué que ça, là. Alors, cependant, on peut dire que la prière, avoir une vie disciplinée, le travail et le soutien du Saint-Esprit nous aideront à vaincre ces difficultés et à enrichir notre compréhension et notre obéissance à ce cadeau et à ce trésor divin. Donc, le but de l'étude est toujours de mieux comprendre était toujours d'obéir. On ne peut pas juste étudier les Écritures comme on étudierait l'informatique ou la physique ou la chimie. On étudie ça dans le but de comprendre ce que Dieu dit, dans le but aussi d'appliquer, de mettre en pratique les choses que Dieu nous demande de faire. Alors, le premier point qu'on s'est dit qu'on regarderait, c'est étudier les Saintes Écritures. Pourquoi le faire? Bien entendu, je pense que la première raison, c'est la connaissance de Dieu. Où trouve-t-on la connaissance de Dieu, sinon dans les Écritures? Dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 15, ça nous dit qu'on se doit de le faire dans le but de bien dispenser droitement sa parole. Ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Comme on disait tantôt, dispenser droitement la parole de la vérité, ça a l'air facile à dire, là. Mais quand tu t'étudies, pourquoi il y a tant de sectes aujourd'hui, puis qu'il y a tant de différences dans les doctrines, c'est parce que justement, il y en a qui ne tiennent pas compte, et ils font dire à la Bible ce qu'elle aimerait qu'elle dise, plutôt que d'écouter ce qu'elle dit vraiment. Il y a une grosse différence entre les deux, là. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 17, Paul il dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voyez-vous, enseigner, convaincre, corriger, instruire, mais ça a un but, afin, ça veut dire dans le but de, que tu sois accompli. Un homme de Dieu accompli, c'est un homme qui connaît ses Écritures et ça le rend propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, pourquoi quand on envoie quelqu'un sur le champ missionnaire, on prend des 3 puis des 4 ans à les faire étudier dans des séminaires, on prend des mois et des mois à leur faire apprendre des langues. Propre à toute bonne œuvre, ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, le Seigneur te prépare. Et un des moyens que le Seigneur utilise pour travailler à son œuvre, c'est l'étude de la parole. Il faut que tu connaisses ta parole si tu veux travailler pour lui. Tu peux travailler si tu en connais peu, mais tu ne seras pas très efficace. Le Seigneur va utiliser toujours ceux qui connaissent le plus la parole dans le but de se servir d'eux pour faire avancer son œuvre. Alors, inutile de vous dire que l'étude de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est pas comme quand on étudie l'informatique ou n'importe quoi. C'est beaucoup plus que ça. C'est un des meilleurs moyens de connaître Dieu avec plus d'acuité et de profondeur. Plus tu vas étudier ta parole, plus tu vas comprendre qui Dieu est. Oui, où je suis en train de préparer la prochaine leçon là, sur la providence. C'est tellement important, les doctrines, quand on prend juste une doctrine comme la providence de Dieu. Tu peux passer des mois à étudier ça. Et c'est très intéressant parce que quand on étudie une doctrine et qu'on la comprend, ça a un impact sur notre marche chrétienne et notre compréhension de la vie en général. Très important. Quand tu comprends la providence de Dieu, tu ne fonctionneras plus jamais dans la vie comme avant. Plus simple que ça. Alors, la tendance actuelle est de se fier passivement et uniquement aux enseignants. Et cette négligence-là, ça a bien entendu des graves conséquences pour votre propre vie. Ça dit dans Hébreux 2, versets 1 à 3, « C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? » On parle de négligence dans le contexte. Bien entendu, la mémorisation et l'étude des Écritures, moi je dirais que c'est très certainement deux des plus grandes négligences du 20e et du 21e siècle. Quand on regarde, par exemple, les chrétiens des siècles passés, quand on regarde, par exemple, les puritains, comparativement, si on les regarde dans leur vie, comparativement à nous, on est des nains. Je vous le dis. On est des nains. Mais là, moi, j'ai entendu souvent le prétexte de personnes qui m'ont dit, « Ben oui, on sait bien, eux autres, à cette époque-là, il n'y avait rien à faire. » Arrête-moi ça. Que tu sois au 15e, au 16e, au 17e, au 18e, n'importe quel siècle, les gens avaient un paquet de choses à faire pour les distraire, la même chose que nous autres aujourd'hui, excepté que c'était pas les mêmes. C'était pas la télévision, c'était pas la radio, c'était pas les médias comme on les connaît, modernes, mais il y avait plein de choses aussi autour d'eux pour les distraire. Pourtant, c'est des siècles, quand on regarde l'histoire des puritains, ils se sont étendus sur à peu près une période de 200 ans. Quand tu regardes leur connaissance des Écritures, tu es littéralement renversé, parce que tu te dis, oh, ça c'est des hommes qui étudiaient les Écritures, sérieusement, et qui les connaissaient, tu le vois par leurs écrits. Il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, là. Il n'y avait pas des outils électroniques pour trouver leurs versets instantanément comme on les trouve aujourd'hui. Là. Ce temps-là, tout se faisait à mitaine, tout se faisait avec des livres. Mais si on se compare, nous, avec eux, on est vraiment des deux de pique. Parce qu'on ne prend plus le temps. C'est vrai qu'on a une multitude de divertissements autour de nous. On est sollicité de toutes parts pour attirer notre attention. Pourtant, des fois, on accorde notre attention à des choses qui ont très peu d'importance et on accorde peu d'attention à des choses d'une extrême importance comme l'étude de la parole de Dieu. Alors, bien entendu, ça nous amène la connaissance de Dieu, mais la deuxième chose que ça nous amène, c'est la connaissance de nous-mêmes. Comment puis-je savoir? Tu sais, des fois, on dit que la philosophie, c'est la réponse à quatre grandes questions. Qui suis-je? Là, tu peux dire, ben là, tu m'as nommé ton nom. C'est plus que ça. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Et où vais-je? Ça a l'air de rien, là, mais c'est quatre grandes questions que ça prend 1200 pages pour t'expliquer ça. Alors, ça, c'est la Bible répond à toutes ces questions-là. Si on va dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ce n'est pas un ordre, ça, je me demande bien c'est quoi un ordre. Enseignez-leur, faut que tu fasses des disciples des personnes que tu vas emmener au salut. La tendance que j'ai observée maintes et maintes fois, t'emmènes quelqu'un au Seigneur, puis là tu dis au pasteur, occupe-toi-en. Non. Occupe-toi-en toi-même. Fais-en des disciples. Puis pour faire des disciples, ça implique que tu connaisses ta Bible pour être capable de l'instruire par toi-même. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'aide, ça peut arriver que tu aies besoin d'aide, mais tu devrais être suffisamment ferré, autrement dit, pour être capable de le faire avancer par tes propres moyens, par tes propres connaissances. Parce qu'il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous rendez-vous compte de ce qu'il est en train de dire, là? Tout ce que je vous ai prescrit, c'est tout ce qui est dans la Bible, ça. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Troisième raison, donc la connaissance de Dieu. Pourquoi on doit étudier pour connaître Dieu? Deuxièmement, pour nous connaître nous-mêmes. Troisièmement, pour discerner la vérité. L'étude de la Bible nous donne la capacité de discerner les erreurs de doctrine. Est-ce que la plupart d'entre nous, enfin, la plupart d'entre nous, on n'est pas des jeunes chrétiens d'hier, Est-ce qu'on serait capable de réfuter des personnes qui passeraient chez nous qui enseigneraient des faussetés? Témoins de Jéhovah, mormons, affaires de même. Si on n'est pas capable, ça implique qu'on ne connaît pas assez nos Écritures parce qu'on se devrait les connaître suffisamment pour que s'il se présente un témoin de Jéhovah, oh, mais rentre, mon ami. Je vais te tu ne dis pas ça de même, mais tu veux y prouver qu'il est dans les patates. Puis pour y prouver qu'il est dans les patates, si tu ne connais pas les Écritures, comment tu vas le faire? Fait que bien souvent, tu vas plutôt dire, tu ne le laisses pas rentrer parce que tu sais que tu n'es pas de calibre pour l'affronter. Alors, quelque part, c'est pas drôle. Alors, ça nous donne la capacité de discerner des erreurs de doctrine. Et souvent, on laisse les enseignants former nos croyances à cause de plusieurs suppositions. Et c'est pas des choses qui sont nécessairement fausses, là. Nous supposons que le sujet a été pleinement et honnêtement fouillé et étudié par eux. Donc, on se fie sur l'enseignant et on se dit, lui, il l'a étudié, donc lui, il sait. Oui, mais ça t'empêche pas de toi essayer de maîtriser le sujet en même temps, parallèlement. Deuxièmement, on suppose, des fois avec raison, que l'enseignant devra rendre des comptes à Dieu. On se dit, ah oui, on sait bien, lui, il va avoir des comptes à rendre à Dieu, donc il faut qu'il s'attelle, lui, pour faire sa job comme du monde. Mais toi aussi, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu. Troisièmement, on suppose que l'enseignant fait l'œuvre de Dieu. Ces suppositions sont souvent vraies, mais pas toujours. L'enseignant peut manquer de connaissances ou avoir subi de mauvaises influences. Le critère absolu pour savoir si une doctrine est vraie ou si une doctrine est fausse, c'est l'examen et l'étude des Saintes Écritures. L'esprit béréen, autrement dit. Et chaque jour, ils examinaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Pour être capable de le faire, il faut au moins que tu saches combien il y a de livres dans les Écritures, puis il faut que tu sois capable de trouver ta place. Minimum. Alors, les critères absolus, c'est vraiment l'examen et l'étude des Saintes Écritures. Dans Acte 17, justement, on se le fait rappeler. Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Remarquez l'expression « chaque jour ». Quand on dit « étudier les Écritures », ça devrait être une affaire quotidienne. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, on suppose souvent que l'enseignant a une meilleure préparation, c'est vrai, intellectuelle et académique, que nous, et que conséquemment, il a de plus grandes capacités que nous, souvent. Nous supposons que l'enseignant a une meilleure préparation intellectuelle et académique que nous, et par conséquent, il a de plus grandes capacités que nous. Tout ça, c'était peut avoir de la vérité là-dedans, mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de prendre du temps et de se donner un plan et se réserver du temps chaque jour pour étudier les Écritures. Deuxième point qu'on va regarder, étudier les Écritures, en quoi ça consiste. On va donner une brève définition pour le deuxième point. L'étude, c'est le processus par lequel nous plongeons profondément dans le texte de manière à acquérir une meilleure compréhension dans le but de se conformer et d'obéir. Comme on a dit tantôt, on étudie l'ensemble des Écritures. Comme chrétien, là, on se devrait d'avoir lu les Écritures. Si ça fait 10 ans qu'on est sauvé, ça devrait faire au moins 10 fois qu'on la lit. Puis si ça fait 40 ans, ça devrait faire au moins 40 fois que tu la lis. Au moins. Mais des fois plus. Parce qu'on prend un exemple. George Mueller, 4 fois par année, il lisait sa Bible 4 fois par année. Et même, il a dépassé ça des fois. 4 fois par année, s'il a vécu 50 ans, ça veut dire qu'il a lu sa Bible 200 fois. Selon vous autres, il commence à connaître sa Bible un peu. Selon moi, là, il y a des grosses chances. Alors, l'analyse en profondeur de la Bible dans le but de nous laisser enseigner par Dieu et sur Dieu, et sur sa volonté, et sur son salut, afin de découvrir par nous-mêmes ses vérités. Alors, l'étude, si tu prends du temps pour étudier les Écritures, tu vas apprendre des choses par toi-même, pas juste des choses qu'on déverse sur toi, qui ont déjà été préparées et tout mangées par un autre. Ça, là, c'est très différent. Parce que les affaires que vous allez avoir forcées pour apprendre, vous allez vous en souvenir beaucoup plus longtemps, puis vous allez mieux les comprendre si vous avez fait un effort intellectuel pour les comprendre. Donc, ce qu'on appelle l'étude inductive, c'est la plus profitable et la meilleure parce qu'elle laisse la Bible nous parler. Plutôt que de chercher à prouver par la Bible et à supporter par elle nos propres enseignements et nos propres conceptions. La tendance moderne, c'est de faire ça. T'as tes propres idées, puis là, tu t'en vas chercher dans la Bible que ce qui fait ton affaire pour prouver tes idées. L'étude inductive, c'est pas ça. C'est de laisser le texte te parler et te dire ce que la Bible dit vraiment et non pas ce que tu souhaiterais qu'elle dise. Parce qu'aujourd'hui, ça, cette méthode-là, d'avoir tes propres idées préconçues puis d'aller chercher des versets pour t'appuyer, c'est très répandu et ça amène énormément d'erreurs. Mais si tu tiens compte que tu laisses le texte te parler et tu l'étudies correctement, le sens, le véritable sens que Dieu a voulu te donner va apparaître tôt ou tard. Alors, notre attitude devrait être plus « je veux entendre ce que la Bible dit » plutôt que « je veux que la Bible dise ceci ou cela ». Vous remarquerez que la plupart des sectes qu'on voit autour de nous, ils ont toute la Bible dans les mains. Puis ils ont tous des versets qui sortent ici et là pour appuyer leurs affaires. Alors, il faut faire attention pour pas faire dire n'importe quoi à la Bible. Le troisième point qu'on va regarder, deux minutes, c'est juste quand le faire. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, on terminera la semaine prochaine. Alors, on regardera quand le faire et on regardera aussi comment le faire. Et le dernier point, on va regarder certaines règles sur... Là, on va, je tiens à vous dire, quand on va regarder l'herméneutique, là, on va faire un survol extrêmement superficiel, les grandes règles. Mais si on veut vraiment étudier l'herméneutique, il faut s'acheter des livres sur le sujet. Il faut prendre la peine. Ça aussi, c'est de l'étude. Alors, ça va impliquer de l'étude. On va terminer là pour aujourd'hui.